Voilà, alors, je vais donc passer la parole à Étienne de la Bessière. Étienne de la Bessière est directeur d'études à l'EHESS sur le thème, je crois, de l'histoire de l'Asie centrale médiévale. Il a fait de nombreuses missions de terrain en Asie centrale, dans ma mission à Samarcande, avec la mission du musée de l'Ermitage à Taïkent, près de Bukhara, plus récemment, trois, en Afghanistan, ayant pour objet l'étude de l'oasis de Batre. Donc, sans plus attendre, je passe la parole.
Donc, tout d'abord, merci beaucoup au professeur Franz Grenet de m'avoir invité. Je vais présenter de nouvelles recherches archéologiques sur un site que j'ai découvert il y a 3 ans, au départ sur des photographies aériennes et, pour le dire tout net, grâce à Google Earth, dans le nord de l'Afghanistan, et qui, je pense, peut toucher à la question des villes centrasiatiques qui forment le thème de ce séminaire. Ces recherches ont été conduites à l'occasion de ma collaboration avec la délégation archéologique française en Afghanistan, à Kaboul, et en particulier à l'invitation de son directeur, M. Philippe Marquis, qui, outre plusieurs séjours à Bactre consacrés à d'autres sites, m'a donné les moyens d'aller sur le site de Zadian, dont je vais vous parler aujourd'hui, en septembre dernier, et à une seule reprise. J'avais auparavant, après la découverte du site sur Google Earth et avant d'aller sur le terrain, pu exploiter des photographies faites sur le site, mais sans que les chercheurs aient connaissance de l'existence du site lui-même, des photographies de terrain et des photographies aériennes qui m'ont été fournies par le prédécesseur de Philippe Marquis à la tête de la DAFA, M. Roland Bézenval, que je remercie également. Alors, nous nous trouvons tout à fait dans la même région dont vous a parlé Franz Grenet, c'est-à-dire le nord de l'Afghanistan avec la Moudaria et le superbe cône alluvial de l'oasis de Bactre. Et je vous prie de faire attention à cette limite claire, qui est vraiment la limite de la zone alluviale, avant la zone désertique, en grisé, ici, et avant d'arriver à la partie, disons, humide, les bords, la vallée large de la Moudaria lui-même. Voilà une carte plus restreinte, donc nous n'allons pas jusqu'à la Moudaria, une carte de l'oasis lui-même avec le système montagneux, la Balkade qui sort ici encluse de la montagne et qui va irriguer un vaste cône alluvial. Et je vous prie de faire attention à cette route dont on voit bien que le tracé initial était un tracé médiéval qui menait à Bactre avant la destruction de la ville par les Mongols et qui ensuite a été reprise une fois le site principal de l'oasis déplacé à l'est à Mazar-e-Sharif a été repris en direction nord-sud. Mais on voit bien que le tracé ancien était ici. Le site dont nous allons parler, c'est le site de Zadian, tout à fait au nord, droit au nord de Bactre, à la limite du désert, ici représenté par la limite entre le vert clair et le blanc. Zadian est connu dans la littérature archéologique presque uniquement en raison de la présence d'un très beau minaret seldjoukide sur lequel j'ai pu monter. Alors, j'ai des photos de l'ensemble du paysage. Il y a eu un certain nombre d'articles parus dans les années 70, de Madame Colombek par exemple, sur ce minaret seldjoukide, mais je ne vais pas du tout en parler, donc je passe rapidement. Mais il est très beau. En revanche, ce dont je vais traiter, c'est d'abord ce que vous voyez au loin. Alors, vous voyez le minaret, là, on est 4 km au nord par rapport au minaret. Le minaret, vous le voyez ici. Mais ce dont je vais parler, c'est de cette énorme citadelle, 4 hectares, 200 mètres sur 200 mètres, 12 mètres de haut, de forme carrée, qui est conservée en assez bon état. Disons qu'elle est tellement massive qu'elle n'a pas été complètement détruite, au centre de la plaine. Quand je dis conservé en excellent état, l'ensemble du site a été pillé. Vous avez là le paysage de cratères qui est habituel dans ces zones de pillage. Peut-être que Franz vous a montré des photos d'Aïranoum après les pillages. On le voit même sur Google Earth, hein, que c'est complètement pillé. Et quand nous sommes arrivés en septembre avec les soldats, nous devons nous déplacer avec des soldats. On a fait s'enfuir une série de pillards et on voyait au loin, sur un autre site dont je vais vous parler tout à l'heure, des pillages en cours, des silhouettes sur les monticules qui ne pouvaient être que des silhouettes de pilleurs. Ce site qui s'appelle Kafir Kalaï Zadian est répertorié dans le grand répertoire des sites archéologiques d'Afghanistan, publié par Warwick Ball. C'est le site numéro 8 dans cet ouvrage. Et il est simplement décrit comme une grande citadelle carrée. Mais il y a aussi à Zadian, à 2 km au nord par rapport au site de la citadelle, un mur. On le voit dans sa caractère complètement rectiligne. Et la photo précédente, en fait, est prise du mur. Donc vous voyez la distance qui les sépare. Un mur partiellement conservé, et je vais même dire remarquablement conservé, puisqu'il est conservé par endroit jusqu'à 7 mètres de haut. C'est un cliché que je dois à Roland Bézorval, donc avant la découverte du site, de l'organisation du site, disons. Et là, vous le voyez, vous voyez l'enfilade des moignons qui restent du mur. Là, c'est une photo que j'ai prise donc, en septembre. Si je montre une partie des photos de Roland Bézorval, c'est que nous avons eu un problème avec notre appareil photo. Voilà. Et donc là, vous voyez le mur qui se prolonge depuis le désert. Et là, nous sommes dans la partie de désert avec des séries comme ça d'isolats, hein, des restes d'anciennes terrasses complètement disséquées par le vent, sur laquelle, d'ailleurs, je signale que les archéologues qui m'accompagnaient, Julio Bendezou et Philippe Marquis, ont trouvé des restes néolithiques. Il y a plein de pierres taillées. Voilà l'organisation, voici une carte soviétique au 50 millième, avec l'organisation d'ensemble du site. Donc vous avez le désert au nord, vous avez le village de Zadian en deux parties ici, le minaret ici, vous avez la forteresse carrée, 4 hectares, et vous avez ce gigantesque mur de 4 km de long, extrêmement bien conservé, non seulement dans une partie est-ouest, mais aussi faisant un angle droit dans une partie nord-sud. Donc 4 km de long, et là à peu près 1,5 km, 1,6 km conservé. Ce site, cet espace a fait l'objet d'un certain nombre de travaux antérieurs. Le gazetteur, l'ouvrage de Warwick Ball notamment, fait référence à une expédition qui a eu lieu en 1948, dirigée par Marc Lebert, d'une exploration archéologique de l'oasis de Bactre. Et Marc Lebert a passé une journée dans cet espace et a écrit un rapport non publié sur les différents TP, les différents sites individuels de la région de Zadian. J'ai pu retrouver ce rapport, enfin au moins en partie, dans les archives de la DAFA à Nanterre, que j'ai pu consulter à l'automne dernier. Alors, je vous montre les esquisses de Lebert faites sur la région. Donc voilà, les ruines. Donc le nord est en bas. Hein. Le camp Pirac, donc, c'est le nom du mur. La forteresse carrée, un stupa dont je vais reparler. Le minaret ici. Des zones habitées ici, un autre site ici dont je vais parler. Voilà le type de fiches que l'on avait. Alors il manque une photo, je ne sais pas où elles sont, mais on a des photos du stupa et une brève description de ce que Lebert a vu sur le site. Je dois dire, j'en profite parce que j'ai un bon public, je dois dire toute l'admiration que j'ai pour Marc Lebert, qui a quand même fait un travail remarquable dans toutes les régions d'Afghanistan où il est allé, de découverte de nouveaux sites. C'est tout à fait remarquable. Voilà le dessin. Marc Lebert était architecte. Voilà le dessin de la citadelle, tel qu'il a été relevé par lui, sans photo aérienne, sans rien du tout, avec notamment un reste de l'entrée complexe, coudé, que l'on voit ici. Une zone haute, qu'il est toujours préservée, même dans le relief pillé que l'on voit actuellement. Et alors une zone angulaire, ça je l'ai découvert donc après, Après mon retour d'Afghanistan, ça nous ne l'avons pas vu. Mais peut-être n'avons-nous pas fait assez attention. C'est tout à fait possible que ça y soit, que cela y soit encore. Ce n'a pas donné lieu à publication. En revanche, une deuxième expédition archéologique a exploré le site de Zadian. C'est l'expédition archéologique soviéto-afghane du début des années 70, dirigée par Madame Pugachenkova, dont Franz vous a parlé tout à l'heure. Voilà la couverture d'un des quatre volumes de leur publication, dans lequel quelques pages, c'est le volume paru en 1976, quelques pages, trois pages en tout, sont consacrées au site de Zadian et la façon dont les archéologues soviétiques ont compris la région. Il faut tout d'abord préciser que voici la carte des zones prospectées par l'expédition. Bactre est ici et Zadian est ici. Alors en fait, ils y sont allés aussi. Mais il faut bien voir que le cœur de l'expédition portait sur des régions qui étaient nettement plus à l'ouest. Il s'agissait de la frontière entre l'Afghanistan et le Turkménistan, essentiellement, la région de Herat, de Meymana, de Balay-Morghab, etc. Donc, de régions qui étaient... Ce n'était pas du tout le cœur de leurs propos, et les découvertes faites par cette expédition d'Ashley, etc., sont absolument magnifiques. Voilà la carte de synthèse de l'oasis de Bakht proposée dans cet ouvrage par Madame Pugachenkova, et le site de Zadian, vous voyez, forme la zone la plus orientale, l'extrémité la plus orientale de cette prospection archéologique. On le voit très bien sur cette carte, le mur de Zadian, dont je vous ai montré tout à l'heure des photos, représente pour Madame Pugachenkova et Madame Krudlikova aussi, l'extrémité orientale, vous voyez l'angle du mur de Zadian, c'est ça, d'un gigantesque mur de 200 km de long entourant l'oasis de Bactre. Effectivement, nos collègues soviétiques ont pu suivre dans le micro-relief l'existence de ce mur. Bon, il disparaît ici parce que toute cette zone a été, la Balkab ayant changé de cours à l'époque médiévale, toute cette zone a été en partie inondée et donc on a perdu le mur. Ils ne l'ont pas trouvé là, mais peut-être tout simplement parce qu'ils ne l'ont pas cherché, ils ne sont pas allés plus à l'est. Et pour eux, donc, le mur de Zadian est l'extrémité orientale du mur de Bactre, mur de Bactre qui est attesté dans les sources musulmanes, puisque Istakhri en parle au Xe siècle, donne ses dimensions. Donc c'est un mur dont il savait qu'il pouvait espérer le trouver. Vous avez ici, c'est toujours Google Earth, vous voyez, c'est à la portée de n'importe qui. vous avez là donc un gros plan où j'ai cette zone-là est l'extrémité du mur de Zadian que je vous ai montré tout à l'heure, cette zone parfaitement rectiligne. Et si vous prêtez attention, vous apercevez que vous voyez effectivement, toujours actuellement sur les photos aériennes, le raccordement du mur de Zadian qui est là, avec le mur de l'oasis qui se trouve ici. Donc, Madame Pugachenkova et les archéologues soviétiques avaient parfaitement raison. Le mur de Zadian a fait partie du mur de l'oasis de Bactre. Ça, on ne peut absolument pas en douter. Ils travaillaient dans d'autres conditions de sécurité, j'y reviendrai, et donc ils ont pu faire des coupes du mur de l'oasis, ceci est toujours tiré de cet ouvrage, un schéma général de l'élévation avec les archères en coupe, vous voyez, la répartition avec des petites tours, et enfin une coupe ici avec un socle plus large et un mur assez haut, jusqu'à au moins 7 mètres de haut, conservé. Voilà. La conclusion qu'en a tirée Madame Pugachenkova est qu'il s'agissait de la partie la mieux conservée du mur de l'oasis, probablement d'époque grecque, Tout simplement parce que dans la conception, dans sa conception, il faut un pouvoir extrêmement fort pour être capable, et c'est sans doute très vrai, un pouvoir extrêmement fort pour être capable de bâtir un tel mur entourant tout l'oasis. Et pour la datation, elle ne se base pas sur des parallèles, céramiques à proprement parler, mais plutôt sur la façon de bâtir ce mur avec les parallèles qu'elle peut trouver dans les différents sites qu'ils ont explorés plus à l'ouest. Je vous montre là une photo actuelle, un cliché de Roland Bézenval aussi, de ce système d'archères qu'on voit très bien. Hein. Là, c'est cette structure, vous voyez, avec les trois ouvertures convergentes. On les voit parfaitement. Revenons à Google Earth. Voilà ce que j'ai vu. En fait, moi, je cherchais le mur de l'oasis. Il se trouve que je m'intéressais à des questions de démographie historique, d'évaluation des surfaces irriguées. Je cherchais le mur de l'oasis, sachant qu'on connaît des murs d'oasis à Samarcande, on en connaît à Boukhara, à Merv, etc. Je cherchais celui de Bactre et je cherchais avec Google Earth à le suivre. Et voilà sur quoi je suis tombé. Je suis, par chance, le premier à avoir fait attention à cela. Vous voyez des choses. Vous voyez les mêmes choses que moi. Regardez. Ça, c'est une photo militaire de bien meilleure qualité. Regardez. Vous avez un parcellaire et des murs qui sont totalement symétriques par rapport à la structure centrale. L'erreur de Mme Pougatchakova, la seule erreur, et ça, il pouvait peut-être le voir avec les cartes, mais il ne pouvait pas le voir en l'absence de photographie aérienne. Je ne sais pas si le pouvoir soviétique leur avait fourni assez de photographies aériennes, en tout cas sur cette zone-là, c'est de ne pas voir qu'il est parfaitement illogique que la partie préservée du mur, parfaitement rectiligne ici, soit strictement symétrique par rapport à la citadelle. Voilà les parties préservées du mur, et en pointillé, ce que moi je reconstitue, je vais vous expliquer pourquoi. Cette partie fait 4 km, 2 km jusque-là et 2 km jusqu'ici. Après, la zone qui se poursuit plus à l'ouest, et on verra aussi la zone qui se poursuit plus à l'est qu'ils n'ont pas vue, est dans un état tout à fait différent, dans un état totalement ruiné. On voit à peine un monticule qui s'élève du sol. On n'a pas du tout ces structures conservées jusqu'à 6-7 mètres de haut. Il n'y a aucune raison de penser que le mur a été conservé, et c'est le seul endroit dans tout l'oasis où le mur est conservé jusqu'à 6-7 mètres de haut. Il n'y a aucune raison de penser que c'est précisément symétriquement par rapport à cette citadelle que le mur de l'oasis a été conservé dans un tel état, un bon état, si ce n'est dans l'hypothèse où ce mur, cette section de mur, a été construite et a été pensée en fonction de la citadelle centrale. C'est la seule explication logique. Vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi cette partie-là n'est pas bien conservée, etc. Hein? Et pourquoi c'est quelque chose de centré sur la citadelle qui est parfaitement conservé. La différence de conservation entre les deux régions du mur, celle qui est centrée sur la citadelle et tout le reste, montre qu'il y avait quelque chose à Zadian qui dépassait le seul cas, la seule explication, si vous voulez, du mur de l'oasis. Il y avait à Zadian autre chose que le mur de l'oasis. Peut-être quelque chose d'antérieur, réutilisé par le mur de l'oasis, peut-être quelque chose de postérieur, utilisant le mur de l'oasis, s'appuyant sur le mur de l'oasis, mais il y a bien eu à Zadian deux étapes. Une étape du mur de l'oasis et une étape liée à la citadelle qui se trouve à 2 km au sud. Mais ce n'est pas la seule symétrie que l'on peut constater sur le site de Zadian. Et en fait, je crois que c'est ça qui, au départ, a attiré mon œil. Regardez le parcellaire actuel. Il est totalement orthogonal. Regardez ça. Il est divisé en une série de 16 carrés et 16 carrés très, 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 très réguliers. Alors, ce que vous voyez là, essentiellement, ce sont soit des chemins, soit des canaux. Ceux qui sont plus sombres, ce sont des canaux, mais parfois ce sont simplement des limites de champ. Par exemple, là, on a un canal parfaitement régulier, mais là, il tourne, et là, vous avez une limite de champ, simplement. Hein ? Donc, vous savez, vous connaissez comme moi la capacité du parcellaire à préserver, à fossiliser des organisations du territoire, des terroirs très anciennes, surtout dans des zones qui ont été désertées et qui, du coup, on peut bouger, en fait, depuis. Regardez cela. Je précise que le quadrillage, je l'ai fait à partir d'Excel. C'est-à-dire que c'est un quadrillage parfaitement régulier que je n'ai pas, je n'ai pas triché. J'ai simplement fait un quadrillage régulier de 16 carreaux et je l'ai placé dans le cadre, dans ce cadre-là, en le centrant sur la citadelle. Alors, attendez, je vais essayer de sortir voilà, parce que normalement, je dois pouvoir... Voilà la transparence, regardez. Donc ça, c'est le quadrillage, le tableau Excel. Et ça, c'est le fond. Et regardez comme les choses se superposent. Vous voyez ? Regardez là. Tout ceci est parfaitement régulier. Alors parfois, il y a une petite déviation, hein, mais ce n'est jamais grand-chose. C'est vraiment quelque chose. Donc il y a un parcellaire azadian régulier qui est organisé, qui est centré sur la citadelle, c'est-à-dire qu'en fait, au centre de l'espace, on a une zone de 4 carrés sur 4 carrés qui échappe à ce parcellaire. Et effectivement, on voit, lorsqu'on est sur place, dans le micro-relief, une zone basse ici, qui est un très large fossé entourant la citadelle, qui se trouve ici, et qui occupe l'essentiel de ces carrés centraux. Tout le reste est donc parfaitement orthogonal. Ce parcellaire nous donne une information supplémentaire. C'est que ce parcellaire s'arrête strictement ici. Il s'arrête de manière... Or, ensuite, si je ne vous ai pas mis d'image ici, mais si on regardait les zones qui sont plus à l'ouest, les zones plus à l'est, les zones plus au sud, au nord, il n'y a rien, il y a le désert, vous verriez que là... Le parcellaire conservé, pas dans le désert, mais ici, ici et ici, est totalement chaotique. Les champs sont de toute taille, toute dimension, toute forme. Il n'y a aucune logique organisationnelle dans ce terroir. C'est uniquement dans ce vaste carré limité au nord par ce mur que l'on trouve ce parcellaire régulier. Donc, on peut supposer que nous avons ici préservé une partie seulement d'un ensemble plus vaste, d'un mur plus vaste, qui devait faire le tour de cet ensemble. Et vous allez voir que j'ai d'autres raisons pour le dire. Et la première raison, c'est donc le fait que, par rapport à la citadelle, le parcellaire régulier s'arrête de manière symétrique ici. La deuxième raison est la suivante. Vous avez donc la citadelle centrale de 4 hectares, donc 200 mètres sur 200 mètres, 12 mètres de haut, encore préservé. Mais vous avez à l'ouest un autre site, le site de Pitkala, que j'ai évoqué tout à l'heure sur le dessin de Marc Lebert. Je vous montre une photographie militaire. Alors c'est ici, vous voyez la citadelle. Vous voyez là ce parcellaire régulier, hein ? Et vous vous apercevez que Pitkala est parfaitement aligné avec la citadelle. Et si là, vous voyez la limite, regardez, vous descendez tout droit, Pitkala est parfaitement aligné avec la limite supposée du mur. Or, en avant de Pitkala, il y a un fragment de mur. Donc voilà une deuxième confirmation du fait que ce mur que j'ai mis en pointillé, puisqu'il n'est pas conservé, existait bien. On a conservé au milieu de ce mur supposé un fragment de mur et une citadelle. Alors de quoi peut-il s'agir ? Voilà le dessin fait par Marc Lebert. Alors, nous n'avons pas pu aller à Pitkala, parce que d'abord c'est loin. Hein, c'est à 6 km quand on est. Enfin non, c'est à 5 km quand on est à un angle du mur nord. Et en plus, donc, il y avait des pillages que l'on voyait. Voilà donc Pitkala dessiné par Marc Lebert. Et voilà le fragment de mur conservé du mur nord-sud du côté ouest. L'autre élément se trouve à l'inverse du côté... Regardez, c'est ici. Alors ici, il n'y a rien de conservé. Mais dans le micro-relief, vous le voyez très bien. Regardez. C'est détruit. Hein. C'est détruit. Je vous montrerai un schéma d'ensemble. De toute façon, Franz l'a montré déjà tout à l'heure. Je vous montrerai un schéma d'ensemble. Mais là, en fait, la rivière, un des bras de la rivière de Bactre a détruit ici toute la zone. Donc, c'est normal qu'il ne reste plus rien. Hein. Mais on voit ici encore dans le micro-relief qu'il y avait quelque chose qui est parfaitement symétrique. Pitcairn est là, vous voyez, qui est parfaitement symétrique. Donc, voilà l'organisation d'ensemble que l'on peut proposer de ce site. Un petit détail. Ceci fait 4 km. 4 km. Donc, on n'est pas comme à Dalverzin Tepe ou dans les 31 hectares. On est dans les 1600 hectares. Samarcande, c'est 220 hectares. Donc, évidemment, ce n'est pas une ville. Évidemment. Alors, quel parallèle ? Bon, la forteresse centrale est énorme. Et encore, là, vous avez l'échelle avec le soldat là, qui monte la garde. Vous avez l'échelle qui vous permet un peu de visualiser l'ensemble. Et là, vous voyez le fossé. Vous voyez que ça remonte, là, la partie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les parallèles auxquels on pense sont, je pense, enfin, on peut faire l'hypothèse, je pense, d'un camp militaire. C'est peut-être la chose la plus vraisemblable. Et on connaît, dans l'Asie centrale antique, au moins un modèle de vaste camp militaire dans lequel sont logés des soldats paysans qui vont à la fois défendre la région et cultiver des champs localement pour qu'ils soient plus ou moins autonomes. C'est le modèle des Tuntian chinois, que l'on connaît dès l'époque Han. Et là, vous avez une photo, alors je remercie Arnaud Bertrand, qui est un doctorant d'Éric Trombert, qui fait une thèse sur le Gansu, les défenses du Gansu à l'époque Han, qui m'a fourni cette référence. Là, on voit un Tuntian, probablement d'époque Han, chinois, et on voit là, les champs à l'extérieur du camp fortifié. La grande différence, c'est que, vous voyez, là on a moins de 300, là on a 300 mètres à peu près, 350 mètres. On n'est pas du tout dans la même échelle. Et aussi, les champs sont à l'extérieur de la fortification, qui d'ailleurs n'est pas centrée sur une citadelle, puisque la citadelle est latérale. Donc d'un point de vue morphologique, il n'y a pas d'emprunt direct aux Tuntian chinois. En tout cas, les Tuntian qu'on connaît ne fonctionnent pas de la même manière. Peut-être qu'il y a un emprunt de fonction, peut-être que c'est la même idée, mais ce n'est pas un emprunt morphologique. Deuxième élément de parallèle potentiel, lorsque j'ai présenté ce site pour la première fois à Oxford il y a un an et demi, puis à Berlin, donc à la conférence où nous étions avec Franz il y a 3 mois, et un certain nombre d'intervenants, Franz, Alistair Norfedge aussi, m'ont proposé des parallèles à différentes époques historiques, notamment le site d'Asgird, en Mésopotamie, qui est donc le site royal, impérial de Khosrow II, qui va être pillé par Héraclius en 628. Si vous voulez, un gigantesque palais, ville-palais fortifié, situé loin de Ctésiphon, au pied de la montagne, où le roi des rois pouvait à la fois avoir ses trésors, ses harems, sa garde, et avoir une zone de chasse, tout en échappant au peuple. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver le site. Voilà une carte faite par un agronome dans les années 50 qui situe le site, heureusement. J'ai pu retrouver donc sur Google Earth le site. Voilà. Et voilà des photos qui ont été prises, je crois, dans les années 10, de ce qu'était la lisière, les fortifications de Dasgard. On voit quand même que c'est très, très différent. En termes de, c'est pas du tout les mêmes techniques, c'est beaucoup plus massif, beaucoup plus épais, beaucoup plus puissant aussi. L'autre, j'y reviendrai, l'autre site qui m'a été proposé, c'est celui, c'est un site d'époque probablement musulmane, ou peut-être sassanide, mais plutôt probablement abbasside, du côté de Samarra, là aussi en Mésopotamie. Alors, il a été détruit par le fleuve dans les années 50, Mais vous voyez encore ce site carré, c'est Alastair Northedge qui me l'a proposé et il m'avait envoyé ces photos où vous voyez la forteresse centrale, les murs, vous voyez ça, hein, on le voit. Et effectivement, quand on regarde le plan de ce site, probablement abbasside du début du 9e siècle, de première moitié du 9e siècle, à côté de Samara, un domaine agricole, en fait, en bordure de la ville de Samara, nouvelle capitale de l'Empire abbasside à partir des années 830, on retrouve un plan qui est très proche de celui qu'on a à Zadiane, avec probablement une porte d'entrée, un pavillon, mais ce n'est qu'un pavillon, pas une forteresse centrale, et des délimitations, un certain nombre de carrés d'exploitation, si vous voulez, et un mur qui fait le tour. Alors, France vous a déjà montré, il n'a pas arrêté d'effleurer mes diapos, là. il vous a déjà montré cette diapo. Voilà l'image d'ensemble du site de Zadiane. Vous voyez les zones qui ont été détruites, on les voit bien, hein, c'est énorme, tout à fait normal qu'il ne reste plus rien ici. Mais la grande différence, c'est ça. Regardez, Boukhara au 5e siècle, c'est ça. Le site de Samara, abbasside, c'est en bleu. Vous avez Herat, en bleu clair, vous avez Dasgird, qui est quand même le grand palais de Khosrow, enfin de l'empereur sassanide. Vous avez Bishapur, Kalaizal, donc cette forteresse peut-être, enfin cette ville dans la, peut-être de près de Kunduz, peut-être d'époque du 5e, peut-être du 5e siècle. Le rempart de Bactre II, que je ne m'aventurerai pas à dater, et enfin en rouge, Zadiane. On n'est pas du tout dans la même échelle. Alors, qu'en faire? Sachant que nous ne pouvons pas fouiller. Nous sommes restés 3 heures sur le site, entourés de soldats. Voilà, c'est impossible. Ce que nous avons pu faire, ce sont des prélèvements. Des prélèvements à la forteresse d'une grosse brique de 41 cm carré de 41 cm sur 9 cm, très très lourde. Nous avons fait un prélèvement profond dans cette partie-là du mur de Zadiane, la partie la plus au sud, celle qui entourait donc l'ensemble du site. Nous avons fait un prélèvement aussi dans la partie du mur qui, elle, est le prolongement du mur de l'Oasis en direction de l'est. En fait, nous avons pu suivre, contrairement aux Soviétiques, nous pouvons rajouter à la carte du mur de l'Oasis de Bactre proposée par les Soviétiques, plusieurs dizaines de kilomètres vers l'est. Et enfin, ici, nous avons fait un double prélèvement. Alors, je vous montre que je travaille quand même un peu, je ne fais pas que regarder Google Earth. Les prélèvements en profondeur dans le mur nord, l'état, donc on a à la fois prélevé des blocs témoins à côté du prélèvement et les zones de prélèvement. Là, Philippe Marquis, en fait, on a prélevé cette brique entière. Donc ça, c'est dans la partie haute du mur. Là, le précédent, c'est la partie basse. Et là, on a prélevé en fait une brique qui se trouvait dans la citadelle, à l'intérieur de... C'est un peu... Bon, l'énorme brique de 40 cm de côté, 9, était prise dans la citadelle. Le problème, c'est que j'ai reçu ces prélèvements par avion militaire seulement il y a 15 jours et que pour le moment, j'ai un problème de stratégie de datation à trancher, c'est-à-dire que nous pensions au départ faire de l'OSL, c'est-à-dire une technique qui permet de dater les grains de quartz dans la Terre, mais nous ne sommes pas certains qu'il y ait assez de grains de quartz. Et en fait, plus je lis sur l'OSL, plus je m'aperçois que les datations sont très grossières. Et par exemple, dans le cas du mur du Gourgan, qui a été daté par nos collègues britanniques et iraniens, l'OSL ne leur a servi à rien. Ils ont essayé l'OSL, finalement, c'est le bon vieux carbone 14 qui a marché. Donc il serait peut-être possible que je me rabatte finalement sur le carbone 14. Bon, on va voir. Ce n'est pas le seul élément qui nous permette de dater Zadiane. Comme Franz vous l'a montré, Zadiane se trouve directement au nord de Bactre. Or, la route que vous avez vue tout à l'heure sur la deuxième diapo, la vieille route de Bactre à Termès, passe nettement plus à l'est, 17 km. 17 km à l'époque antique, c'est loin. Ça veut dire que un établissement à Zadiane ne peut pas contrôler la route. C'est beaucoup trop loin. C'est aberrant de mettre quelque chose. Des envahisseurs arriveraient ici à l'entrée de la route à un temps T. Le temps que la nouvelle arrive à Zadiane et que les soldats de Zadiane répliquent, nos envahisseurs, ils seraient déjà ici. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas quelque chose qui est conçu pour la vieille route de Termez à Bactre. Mais, comme Franz, je vais aller vite, puisque Franz vous en a beaucoup parlé, qu'Empire Thépée a été avant Termez, ou peut-être en même temps que Termez, mais en tout cas à l'époque grecque et jusqu'aux alentours de 150 de notre ère, l'un des principaux, si ce n'est le principal, point de franchissement de la Moudaria. Or, donc ça je passe parce que vous l'avez déjà bien vu, la ligne droite entre Bactre et Empire Thépée passe pile au milieu de Zadian. Zadian est un gigantesque, à mon avis, est un gigantesque camp fortifié pour des soldats paysans chargé de contrôler la route de Empire Thépée à Bactre juste à la sortie du désert. Juste exactement à cet endroit-là, au moment où des cavaliers arrivant de Empire Thépée auront des chevaux fatigués, enfin seront extrêmement vulnérables avant de pouvoir boire à nouveau et manger à nouveau. Sur la plus longue, disons, à plus longue, plus grande échelle, si vous voulez, Franz vous en a parlé aussi tout à l'heure, on a au nord de Empire Thépée le site des portes de fer fouillées par Claude Rapin ici présent. Donc je vous remonte une photo, mais bon, je vais vite, puisque là, vous avez la muraille. Et ça, on a déjà vu tout à l'heure la fouille de Claude avec le mur couchant. Voilà, pour moi, Zadian, c'est cela. C'est la défense en profondeur de la Bactriane couchale. On a le site des portes de fer qui bloque le passage des montagnes au nord. On a Empire Thépée qui nous donne un élément de datation essentiel, puisque Empire Thépée s'arrête en 150. Et comme Zadian ne peut être conçu qu'en fonction de la route de Empire Thépée, et non pas de celle de Termez, ça veut dire que Zadian est antérieur à 150. Or, sur le site de Zadian lui-même, à l'occasion, c'était un des aspects très positifs de la visite que nous avons faite en septembre, j'étais accompagné donc du directeur de la DAFA, qui est l'un des seuls archéologues à avoir fouillé à Bactre, vraiment longuement, Philippe Marquis. Or, Philippe Marquis connaît, aussi bien qu'il est possible de la connaître, la céramique de Bactre. Or, il m'assure que la céramique de Zadian commence avec les débuts de l'époque couchane. Il n'y a pas de céramique hellénistique à Zadian, et Roland Bézenval m'avait dit la même chose, et Pugachenkova le dit aussi incidemment. Donc, ensuite, on manque d'une typologie céramique complète, pour la région de Bactre, mais la datation de la céramique de Zadian Kala du début de l'époque couchane correspondent admirablement bien avec le rôle qu'a pu jouer Sotermegas éventuellement à Empire Thépée. Ça serait donc quelque chose, une fondation peut-être simultanée qui permet de protéger la Bactriane couchane, le vieux cœur de l'Empire couchant, puisque les couchants viennent de là, c'est de là qu'ils étendent leur empire, contre des agressions potentielles venues du nord, venues du Kankyu. Voilà, je vous remercie. Merci.